France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Louison. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera du spectacle de Thiago Rodriguez, Katharina et la beauté de tuer des fascistes. 19h45, Affaires en cours, le ministère de la Culture vient d'annoncer la labellisation des 6 premiers centres nationaux de la marionnette. Mathieu Dochterman expliquera à Marie Sorbier les enjeux de cette reconnaissance officielle. 19h50, Affaires à suivre. Comme chaque lundi, on retrouve un correspondant de France Culture à l'étranger, direction l'Espagne ce soir avec Mathieu de Taillac. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dalia et Jean Guillemège à la prise de son. Bonsoir Louison.
Bonsoir Arnaud.
Bienvenue. Vous n'avez pas venu avec votre chienne.
Non,
c'est un vrai problème.
J'ai hésité jusqu'au bout.
On la salue ?
Oui, on lui fait coucou derrière le poste.
Très bien.
Elle nous écoute.
Vous venez de publier Marilyn, dernière séance chez Futuropolis, d'après le livre du même titre de Michel Schneider. On va bien sûr parler de cette actualité, mais je profite, vous le savez, de votre venue pour revenir sur quelques moments importants de votre parcours. On peut commencer par dire que si vous avez mis en image la cure psychanalytique de l'icône hollywoodienne, vous connaissez bien le sujet, avec deux parents psychanalystes. Quand vous avez vraiment compris le métier de vos parents, est-ce que ça vous a plutôt incité à parler en famille ou plutôt à vous taire, Louison ?
Bah, je pense que je l'ai compris parce que moi-même, je me suis retrouvée patiente assez jeune, vers 5-6 ans en fait, vraiment petite. Oui, mais j'avais un truc qui était pour des parents psy, une sorte de signal d'alarme majestueux et fluorescent sur le front, c'est que je faisais pipi au lit. Alors le pipi au lit, ça veut quand même dire qu'il y a un truc qui va pas, donc quand il y a un truc qui va pas, ben on va chercher ce qui va pas. J'ai jamais su ce qui allait pas, mais ça s'est arrêté.
Bon,
et donc j'allais chez une dame chez qui je dessinais pendant des heures et des heures, donc quelque part c'était pas tout à fait désagréable.
Déjà le dessin ?
Déjà. C'est pas parti après.
Il était préalable à la cure ou...
Elle avait des super feutres d'abord, donc c'était surtout ça qui motivait. Elle avait une grande table en verre, donc en plus je voyais mes pieds quand je dessinais, c'était plutôt ça qui était sympathique. Et donc je dessinais les rêves que j'avais faits, les choses que j'avais eues à l'école, les choses comme ça. Enfin, donc je savais que mes parents faisaient pas exactement ça, parce qu'ils avaient pas d'enfants en psychanalyse évidemment, mais que c'était un endroit où on parlait de soi, en gros.
Ben, ça a marché. Donc.
Exactement.
Voilà, on retient cela aussi. Dans l'environnement familial, il y a le goût de la musique, notamment de Mozart, grande passion de votre mère et grande passion, paraît-il, des concours de mime sur l'air de la Reine de la Nuit.
Absolument.
Mais alors, si vous dessinez, le goût de la bande dessinée, il vient comment, par qui ou par quels ouvrages ?
Il vient petit, de façon finalement assez classique, par le célèbre Tom Tom et Nana à la fin des J'aime lire, dont j'étais abonnée. Donc tous les mois, j'avais ma petite histoire de Tom Tom et Nana qui faisait le plus de conneries possible en un minimum de pages et en un maximum d'efficacité. Donc ça, c'était assez fascinant. Il y avait des Tintins à la maison aussi. J'avoue qu'on le regardait aussi avec mon petit frère dans cette version dessin animé sur France 3, qui devait même peut-être à l'époque être encore FR3.
Ouais, c'est possible.
Ouais. Et donc il y avait les Tintins et puis il y avait après il y avait des BD où on n'avait pas trop le droit de les lire, mais elles étaient quand même dans le couloir, donc on pouvait jeter un coup d'œil en passant comme ça. Il y avait du Reiser, du Gérard Lozier, et puis il y avait beaucoup Bretéché aussi. Alors là on avait le droit, mais moi je comprenais rien, donc j'étais frustrée, je comprends rien. Elles sont assises sur un canapé, ça a l'air bien, mais je comprends pas.
Et à quel moment vous êtes dit que ça pouvait être un métier de dessiner, de raconter des histoires?
Je pense que c'est venu de façon comme ça au compte-gouttes, avec d'abord l'idée de faire du dessin un métier déjà. Et c'est vrai qu'il y a eu très longtemps l'envie de faire du dessin de presse, donc de raconter quelque chose d'autre, mais de façon très très comme ça condensée. Et l'envie de la BD, elle a toujours été là, mais ça m'a je me suis toujours demandé si j'en étais capable et si j'avais l'endurance, c'est un peu un marathon, la BD, alors que le dessin de presse, finalement, c'est le sprint. Donc, je me disais, est-ce que j'ai, de la même façon qu'un sprinter va pas faire 42 km, est-ce que je suis capable de faire les deux? Donc, il a fallu pour ça presque 15 ans de vie professionnelle pour me dire, allez, on se lance.
À propos de vos premières lectures, Louison, écoutez Bernadette Després. La créatrice de Tom Tom et Nana que vous venez de citer, c'était au micro de Jean-François Cadet sur RFI en janvier 2019. Elle revenait, elle, sur la genèse de cette série écrite au départ par Jacqueline Cohen.
Jacqueline Cohen, et c'est toutes les deux qu'on a vraiment créé cette bande dessinée, quoi. Avec tous les personnages, avec ça se passe dans un restaurant, peut-être qu'il y avait un restaurant en bas de chez elle, c'est peut-être ça aussi qui l'a marqué complètement.
À la bonne fourchette, hein, ouais, du restaurant
et moi,
du bouchon.
Oui, oui, moi, quand famille. J'ai eu un enfant avant la création de tout ça aussi, j'avais eu un deuxième enfant, et, où il y avait aussi quelqu'un qui sortait d'un bar-restaurant. Et bon, alors peut-être que moi aussi, je me dis, ben, c'est bien ça, c'est parce que Jacqueline et moi, on avait fait 3 livres avant, aux éditions Odège, où c'était sa belle-sœur qui tenait cette édition. Et on avait créé 3 livres de jeux, justement, sur les commerçants, la rue. Donc voilà, donc on est dans la rue. Hein. Paraissait normal d'inventer un restaurant. En plus, un restaurant, bon, moi, en sachant tout de suite que toute la famille habite ensemble et puis qu'il y a ces histoires de l'ouverture sur tous les gens qui viennent dans ce restaurant, comme si c'était un petit théâtre qui pouvait bouger, qui pouvait. Il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont, oui.
Bernadette Després qui évoquait cette naissance de Tom et Nana qui me fait penser en écoutant à L'héritier bien plus tard, La cantine de minuit, dont j'oublie le nom de l'auteur.
Sinon, c'est pas drôle. Je peux même pas vous aider parce que il m'échappe. Donc
bon, c'est formidable. Mais ça a l'air simple, hein, dit comme ça, par Bernadette Després, la création de cette série. Pour l'heure, vous n'avez pas créé de personnage qui pourrait donner naissance à une série. Est-ce que ça vous tenterait?
Tout me tente. Maintenant, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la vie tout court d'ailleurs et de la vie professionnelle, il y a des choses qui vous arrivent et on n'avait pas pensé que ça se passerait comme ça et finalement c'est pas plus mal. Donc une série, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pris l'habitude de me représenter aussi beaucoup et de faire finalement de moi-même un personnage parce que Louison est déjà un personnage. Bon, c'est voilà, c'est une sorte d'identité un peu parallèle à mon à la fois à mon vrai état civil et puis à ma vraie personne. Et donc peut-être ça pourrait être intéressant de créer quelque chose, mais c'est vrai que ça serait quand même à mon avis un avatar un peu au début. Puis peut-être que j'arriverai à me détacher de l'envie de se raconter un peu. Après, pour reprendre tout à l'heure Bretéché les frustrés, c'est quand même voilà, elle est dans chaque personnage, donc on n'échappe pas
à soi-même,
à son narcissisme surtout.
Alors pour revenir à votre parcours, ça qui nous intéresse, après un bac littéraire, 2 ans de cursus de l'atelier de Sèvres, qu'est-ce que vous y avez appris très concrètement?
J'ai appris à être cassée, mais c'était bien parce que c'est un peu comme les prépas littéraires en fait, c'est un endroit où on vous prend vraiment tout frais tombé du nid et en fait on fait de vous des personnes et des adultes qui vont savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Mais pour arriver de l'oisillon à la pintade, prête à en découdre, il faut passer par des moments, oui, ou un peu durs. Mais bon, moi, j'ai beaucoup lutté en même temps. J'ai pas été facile à casser. Donc, finalement, j'en ai pris ce que je voulais. J'en ai pris le goût aussi de subir des critiques pas très aimables, mais d'avancer quand même et de continuer et d'aller chercher des choses là aussi qui n'étaient pas forcément au départ ce que je voulais, et puis d'écouter des conseils, de regarder ce que font les autres, de s'en nourrir aussi, et puis de supporter l'émulation, la présence de ceux qui feront mieux que vous, et puis de ceux qui feront peut-être moins bien, et de ceux qui vous aideront à faire mieux. C'est marrant parce qu'à midi, j'ai mangé avec une des amies que je me suis fait à cette période-là. Donc elle est devenue graphiste, elle fait du motion design. Donc on est vraiment parti dans des directions très très éloignées, mais on continue à se montrer ce qu'on fait comme tentative de travail. On a fait de la sérigraphie aussi ensemble. Donc il y a cette forme de camaraderie que j'ai aimée et que je c'est toujours intéressant de voir ce que sont devenus mes camarades de classe il y a 15 ans.
Alors très vite, je ne sais pas si ça commence d'ailleurs pendant l'école, il y a les blogs, il y en a eu 3 en tout. Est-ce que le premier commence pendant Sèvres déjà ou pas?
Vous avez fait un travail incroyable de recherche, mais moi j'avais oublié mes blogs. Non, ça commence juste après. J'ai fini Sèvres au printemps 2007, prise dans des écoles que je ne voulais pas avoir et pas prise là où je voulais, voilà, l'histoire de
normal.
La vie. Hein. Et donc c'est le moment où les blogs commencent à être effectivement une sorte de médium comme ça de... assez facilité. Il y a aussi les réseaux sociaux qui arrivent. Moi, l'automne 2007, c'est là aussi où je m'inscris sur Facebook et autres. Et donc, le blog, c'était... j'avais dit à mes parents, je veux faire de l'illustration, je veux faire du dessin. Je veux pas aller faire ça en école de design à Reims parce que c'est pas ce qu'il me faut. Donc, je vais dessiner tous les jours. Effectivement, je faisais 4, 5, parfois 6 notes de blog par jour. C'était n'importe quoi. Enfin, j'avais une sorte de frénésie. C'était aussi une sorte de journal intime, très mystérieux. Mais d'ailleurs, mes parents, justement, quand deux psychanalystes voient des dessins qu'ils comprennent pas de leur fille, qui a, donc, à l'époque, 20, 22 ans, et mon père m'appelait en disant, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, ce dessin? Il y avait des dessins où j'avais des crayons dans les mains, machin, enfin, des trucs vraiment, rien, c'est bon. Enfin, je réfléchis, fais tout. Enfin. Donc finalement, on revenait encore à ce que je faisais à 6-7 ans chez la psychothérapeute, donc de continuer à dessiner un peu les humeurs, les chagrins d'amour, les déceptions, les hésitations. Enfin, donc ça a été. Et en fait, j'ai enchaîné un peu les blogs, mais parce que j'essayais de me réinventer tous les 6 mois. Donc,
réinvention, le second, c'est Louison.
Louison arrive à peu près vers 2009, un peu. Au moment où je me dis que vraiment c'est le dessin de presse que j'ai envie de faire, que j'ai quelques pistes comme ça chez Marianne où je commence un stage, et je croise Cavana à un salon du livre, inauguration donc en mars 2009. Il lève sa petite moustache.
Grosse moustache.
Tonitruante, ouais. Et il dit, c'est quoi votre nom? Et donc je lui dis, j'ai pas fait de dessin encore, donc vous connaîtrez pas mon nom. Enfin, il dit, c'est quoi votre nom? Il insiste, la moustache toujours plus vigoureuse. Et donc je lui dis mon vrai nom, donc je dis Louise Angelergue, et il me dit va falloir changer. Et puis la moustache redisparaît. Ça a été mon seul échange avec Cavana.
Déterminant.
Déterminant, mais j'avais fait lui dire oui, c'est prévu, effectivement. J'ai un nom qui est compliqué, qui a un S muet, qui a été écorché tout mon collège-lycée. Donc on va faire plus simple, oui.
Louison. Les blogs sont toujours en ligne, hein, je les conseille. notamment, non mais Louison, votre compte-rendu de lecture du livre de Valérie Trier-Villers vaut son pesant de cacahuètes. Allez lire. En 2009, donc, oui, stagiaire à Marianne, et puis des dessins, d'abord sur le site, ensuite en version papier. Alors l'histoire retiendra, je crois, vous me contredirez, c'est pas le cas, que votre premier dessin de presse publié date du 1er août 2009.
Absolument.
Porté sur le malaise vagal de Nicolas Sarkozy.
On parle d'un temps que les moins de 20 ans ont un peu de mal à se...
Bon. Mais à Marianne, bon, trêve de plaisanterie, mais encore plus de plaisanterie, rencontre déterminante, celle de TNews, avec qui vous allez partager le bureau de dessin pendant 6 ans, toutes les semaines, quasiment, Marianne.
Ouais, le mercredi soir, ils arrivaient avec Pascal Gros vers 16h, quelque chose comme ça dans mon souvenir. Et puis ils se posaient chacun. Ce qui était marrant, c'est qu'il y en a un qui était gaucher, un qui était droitier. Donc on pourrait penser qu'ils se mettaient pour de sorte à pas gêner l'un l'autre.
Eh ben non. Non.
Et donc je pense qu'il y avait vraiment une fraternité chez eux qui faisait qu'ils étaient quand même obligés d'être
copains de coude.
Voilà, copains de coude. Et en fait, ils se dérangeaient jamais en plus. Donc c'était assez marrant à voir.
En quoi il a été important pour vous, TNews?
Il m'a sorti là aussi. Alors lui, il m'a pas cassé. Lui, il m'a au contraire, il m'a porté. C'est-à-dire que il m'a sorti de mon inhibition, il m'a forcé à aller vers les choses qui me faisaient un peu peur, il m'a forcé à... J'avais 24 ans quand je l'ai rencontré, j'étais une femme dans un métier de dessin très, très masculin. Et donc, il poussait aux fesses en disant, là, tu vas me faire le plaisir de y aller et de pas regarder tes genoux, pas de... C'est bon, tu feras des... Tu commenceras à lever les yeux au ciel plus tard, voilà, c'est pas le moment de tergiverser, tu te lances. Et ça, entouré d'une bienveillance absolue, d'un humour absolument total et tout le temps, ça vous aide à vous pousser un petit peu les miches pour aller démarcher, proposer des dessins, y retourner, même si on vous a pas pris un dessin la première fois, ni la deuxième, et la troisième peut-être que ça va marcher. Enfin, voilà, il avait 25 ans de plus que moi, je crois, TNews, quelque chose comme ça, ou peut-être 30 ans, et donc... Donc il avait l'air d'en avoir 5 de plus, mais donc ça permettait d'avoir quelqu'un qui guide aussi dans un métier qui a pas vraiment de formation. Donc on sait jamais combien on peut demander pour un dessin, quels sont nos droits, quels sont des choses comme ça. Il m'a aussi aidé sur des points très administratifs de en disant alors prends un papier, prends un crayon, ça ils ont pas le droit de le faire, ça tu peux demander, ça tu peux pas, ça voilà. Donc c'était une présence absolument déterminante, incroyable et ça a été un arrachement absolument qui continue en fait. Hein. Enfin...
Et puis, parce qu'on n'a pas abordé ce mystère-là, parce que ces derniers jours, Louison, vous avez partagé sur les réseaux sociaux votre bonheur, enfin l'extase d'être à l'Assemblée nationale où vous avez été invité à y dessiner ce qui se passe. Au-delà du lieu, on verra que le fait de dessiner sur le vif sans filet, c'est quelque chose que vous avez aimé d'abord au matin de France Culture, ici, dans la matinale de l'LCI, quelques temps aussi. Le goût de la politique, il est venu très jeune, semble-t-il. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Bah, j'avais, je pense, la chance... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, mais moi, j'avais la chance d'avoir des parents de gauche, pas à partir dans les meetings toutes les 5 minutes, mais en tout cas à s'intéresser à ce qui se passait et à nous intégrer tous les enfants, quels que soient nos âges, aux soirées électorales. On était abonnés à Libé, donc on avait Libé le matin au petit-déj, donc on jette un coup d'œil, on se demande un peu. Moi, je me rappelle petite de... Je me rappelle très bien du 7 sur 7 sur la chute du mur de Berlin. Et pourtant, j'étais pas très grande.
Hein, quoi 5, 4
4 ouais. Et demi.
Et vous en souvenez?
Je me rappelle très bien de mes parents qui mettent la télé. Donc, au-delà du côté politique, c'est aussi de suivre ce qui se passe autour de nous, de s'intéresser à ce que le monde qui nous entoure peut faire de bien et de pas bien. Donc, ça, c'est sûr que ça a été, dès le plus jeune âge, quelque chose de tout à fait... acquis et présent, et que voilà, on s'intéressait à ce qui se passait autour, point. Il ne s'agissait pas de rester très enfermé sur des petites actus, sur des choses comme ça. Il fallait comprendre aussi un peu ce qui se passait autour de nous.
Sur l'actualité, Louison, alors il y a ces dessins vraiment sur le vif, sur la rapidité, sur l'actualité, et puis il y a aussi les temps plus longs, comme cette dernière année de présidence de François Hollande, que vous avez d'abord publié en feuilleton dans le Gratia, qui est devenu un livre intitulé « Cher François ». Vous aviez suivi aussi Emmanuel Macron quelques jours quand j'étais encore ministre de l'économie. Vous avez également suivi Anne Hidalgo, très bon choix, pendant la campagne présidentielle.
Il y avait un peu le fil rouge entre tous ces gens-là.
Il y en a un qui s'en sort bien.
Il y en a un qui
s'en sort. Projet collectif, un carnet de campagne, publié quelques jours après le deuxième tour de l'élection. La notion de collectif, alors, pour avoir reçu ici un certain nombre de dessinatrices, dessinateurs, auteurs, autrices de bandes dessinées, de dessins de presse, la notion de collectif, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Comment est-ce que vous l'expliquez dans ce milieu-là ?
Personnellement, c'était une première expérience de collectif et ça a été un jéroboam de joie, d'enthousiasme, de rire, d'entraide aussi. Ça a été incroyable et ça reste encore incroyable. Demain, moi, je vais à l'Assemblée. La semaine dernière, j'étais avec Mathieu Sapin et Coco Pello. Enfin, la semaine d'avant, avec Dorothée de Monfred. Donc, on est en lien les uns encore avec les autres. Alors que moi, jusqu'à présent, je trouvais qu'au contraire, la BD, c'était un peu se croiser en festival. Parfois, un peu comme ça aussi, au hasard, d'une émission sur France Culture ou des choses comme ça. Et que là, tout d'un coup, on était tous les six dans la même galère, même canoë, selon les jours. Et qu'on avait un truc complètement fou à faire, qui était de faire une BD quasiment en temps réel, sur une campagne qui était quand même particulière, on va dire, pour être poli. Et donc, on se connaissait pas. Moi, je connaissais juste Mathieu, que j'avais évidemment croisé au moment de Cher François et avec qui j'étais restée en contact. Je connaissais le travail de Dorothée de Monfred. Je connaissais Coco Pello pour l'avoir croisé une fois à l'Assemblée au moment du livre politique pour Cher François, justement. Et les autres, je connaissais je connaissais les dessins de Lara dans le Canard Enchaîné. Je connaissais le travail de Morgane plutôt côté animation. Et donc, c'est vrai que tout d'un coup, il y a des gens qu'on ne connaît pas. On se voit en septembre. On se dit, bonsoir, bonjour, enchanté. Et 6-7 mois après, on se retrouve dans le même restaurant. Et on est vraiment... moi, j'ai l'impression qu'on a fait un service militaire ensemble. Enfin, quelque chose comme ça qui, de façon plus douce. On n'a pas mis de Rangers, mais on a fait quelque chose d'assez fou. Et ça nous a... ça a créé un lien qui est très fort et qui donne envie du collectif.
Alors, quelques mots. Alors, à l'inverse du collectif, pour une écriture singulière, le roman Le Chemin des Amoureux, votre premier roman. Alors, un livre qui se nourrit, certes, d'autobiographie, Louison, mais qui est aussi de l'histoire collective. Pour cette histoire-là, pour laquelle je m'apesantirais pas, il fallait que des mots. Mais est-ce que c'était aussi un moyen de dire je peux m'affranchir des dessins ?
Je crois que ce moment-là, dans ma vie, ça a été le moment où je me suis dit, là, tu n'as plus besoin des dessins pour alléger, pour faire rire, pour détourner un peu l'attention sur ce que tu racontes. Là, le sujet était... Enfin, même pas le sujet, mais tout était si... ça a été un tel raz-de-marée, ça a été un tel anéantissement de ce qu'était ma vie de l'époque, même si tout n'était pas parfait et loin de là, mais tout d'un coup, on se retrouve avec vraiment le champ de ruines. Et effectivement, le dessin me paraissait tout d'un coup totalement superflu, voire même un peu encombrant presque. Et, Et quand j'ai fait le livre et quand il est sorti, même encore maintenant, parfois on dit « Ah, mais il n'y a pas de dessin !» Enfin, non, il n'y a que des mots. Donc en général, je dis « Rien que des mots, toujours des mots. Ouais. » Enfin voilà, je rebondis quand même avec une pirouette, j'y arrive. Mais même la couverture, il n'était pas question de faire un dessin. Enfin, c'était vraiment tout d'un coup passer de l'autre côté. J'étais prête et c'était... En termes de thérapie, ça a été très fort et le dessin m'aurait un peu détourné, je pense, de ça.
Alors, on a bien besoin de douceur et de réconfort, ce qui tombe bien avec votre choix musical, Louison, qui s'est porté sur une chanson d'Otis Redding, Cigarettes and Coffee. Pourquoi ce choix?
Parce que ma voix me paraît la meilleure, meilleure bande-annonce de cette chanson. C'est une chanson que j'ai découverte grâce à Lara. On rentrait de je ne sais même plus quel festival et on était dans un compartiment à 6 là dans les vieux trains, je crois qu'on rentrait de Limoges. Et il écoutait ça, on avait chacun une oreillette et je me suis dit, je la connais pas celle-là. Et donc voilà, le collectif nourrit.
Cadeau. It's early in the morning. About a quarter till 3. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I met you, oh, all the days that I've been around, and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, it didn't particularly sad, yeah, but it seems so natural, dog, that you and I are here just talking over cigarettes and drinking coffee. I say it's so early in the morning. Ooh, it's a quarter till 3. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, man. Oh. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy. I met you, darling, honey, since I've met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now. And me, darling, help me smoke just one more cigarette now. Don't want no cream and sugar, cause I got you now, dog. But just let me enjoy, help me to enjoy this good time that we're having. It's so early in the morning, so early, so early. C'est toujours le problème avec Otis Redding, c'est les chintes. Hein. Alors à l'époque, ne rigolez pas, ça fait très très mal. C'est comme ça que ça s'arrête la chanson, évidemment. Mais... venons-en, Louison, à ce nouveau livre, Marilyn, dernière séance chez Futuropolis. D'après le livre du même titre de Michel Schneider, pour rappel, Michel Schneider était énarque, haut-fonctionnaire, écrivain, critique littéraire, psychanalyste. Il a été aussi directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. Il a beaucoup écrit sur la musique, notamment, moi, un de mes livres préférés au monde, c'est Glenn Gould, Piano Solo. Je vous souffle une idée. Il a reçu le prix Médicis de l'essai en 2003 pour Morts imaginaires et le prix Interallié 2006 pour Marilyn, dernière séance. Michel Schneider qui est mort le 21 juillet dernier, trop tôt pour écrire la préface de votre livre, Louison, ce qui était prévu. Alors donc c'est vous qui signez un texte introductif dans lequel vous racontez vos trois rencontres avec Michel Schneider. Mais avant d'en venir là, quand est-ce que vous avez lu son livre pour la première fois?
Je l'ai lu au tout début de l'été 2012, où je suis partie dans un truc un peu... C'était une sorte de voyage un peu initiatique. J'avais 27 ans et je suis partie 3 semaines toute seule à Brooklyn.
Pas mal.
Je suis revenue, hein. J'avais 10 ans de plus dans les dents. Et donc j'étais partie avec pas grand-chose parce que je savais que j'allais revenir avec beaucoup de trucs. C'était pas ma première fois à New York. Et j'avais pris que ce livre en me disant, bon bah il est un peu gros, ça va me tenir compagnie, ça va. Et puis c'est Marilyn, c'est un format de poche, donc bon... Je devrais m'en sortir pendant 3 semaines. Et donc, j'ai lu à ce moment-là, c'était totalement au raccord, hein, sur des pelouses, près de là, on prend le ferry pour aller à Manhattan. Donc, c'était pas dégueu, comme on dit. Et en lisant comme ça, jour après jour, parce que c'était du coup un peu ma compagnie, parce que j'étais toute seule à Brooklyn, je me disais à chaque fois, faudra que j'en fasse quelque chose. Sans savoir quoi, ni comment, ni quand. Mais finalement, j'ai fini par respecter cette intuition et donc presque un peu tard par rapport à la disparition de Michel Schneider, mais juste pile poil, quoi. De quoi le croiser 3 fois.
Michel Schneider, il avait lui-même adapté son texte pour en faire un feuilleton sur France Culture. C'était en 2012, justement. On va écouter un extrait du premier épisode.
Pour sa première séance, Marilyn arriva avec une demi-heure de retard après une journée de tournage laborieux. Le docteur Grinson remarqua qu'elle portait un pantalon ample. « Vous êtes en retard, » pensa-t-il. «
Je suis en retard parce que je suis en
joueur d'échecs, il aimait les ouvertures qui déséquilibrent l'adversaire. La première séance, pensa l'analyste, il faut toujours la prendre comme la dernière séance. Tout ce qui sera important par la suite s'y trouve déjà dit, même si c'est parfois entre les mots.
Depuis le début du tournage, George Cukor a comptabilisé 39 heures de perdu pour la production. Toujours en retard. Les gens s'imaginent que c'est par arrogance. C'est exactement le contraire. Je connais des tas de gens qui sont parfaitement capables d'être à l'heure. Mais c'est pour ne rien faire, sinon rester assis à se raconter leur vie ou toutes sortes de conneries. C'est ça que vous attendez ?
Grinson avait déjà soigné des actrices folles. Mais il fut frappé par la manière de parler inarticulée, terne et sans affect de Marilyn. Elle disait sans douleur des choses douloureuses. Elle avait dû se bourrer de calmants, car elle réagissait peu.
Vaut mieux pas.
Elle semblait lointaine, ne comprenait pas le plus simple trait d'esprit et tenait des propos incohérents.
Je vous propose plutôt une thérapie face à face.
Face à face ?
Il faut être modeste. Nous ne visons pas des changements profonds, puisque vous allez bientôt repartir pour New York, retrouver votre mari et reprendre votre cure là-bas.
Modeste ?
Mais c'est pas un reproche. C'est un objectif que je me fixe à moi-même.
Comme vous voudrez. Je vous dirai ce que je peux.
I wanna be loved by you, just you.
Marilyn, dernière séance, le feuilleton de France Culture est à retrouver en ligne, on peut l'écouter intégralement. On vous le conseille, Louison, vous le conseillez ?
Je l'ai déjà écouté, j'avoue. Je l'ai écouté après avoir fait le storyboard,
oui,
et j'étais contente
mieux.
De retrouver du coup des choses que j'avais gardées.
Alors, notamment
cette scène.
Cette première séance, parce que adapter pour la radio, bon, c'est une chose, faire un roman graphique, c'est quand même une autre histoire, Louison. Parlons d'abord du fond, justement, adapter, c'est choisir, c'est faire des coupes dans ce livre de Michel Schneider. Comment est-ce que vous avez procédé ? Quels ont été vos partis pris ?
Il y en a qui ont été faits de façon totalement consciente et d'autres de façon totalement inconsciente. Comme quoi, on est sur le fond et la forme, c'est bien.
C'est bien.
Faut être cohérent dans la vie. En particulier, un choix qui a été fait de façon totalement inconsciente, et c'est mon éditeur qui me l'invite comme ça à révéler à moi-même, c'est de se mettre dans la peau de Grinson. Et ça, je l'ai fait sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'aurais pu raconter l'histoire à la troisième personne, comme le livre de Michel Schneider est raconté. J'aurais pu me mettre dans la peau de Marilyn aussi. Je pense que c'était une bonne chose de pas le faire. Et comme ça, naturellement, je me suis mise à la place de celui qui est en face d'elle et qui, du coup, va raconter ces 30 et quelques mois de sombre et lente, mais déterminée agonie. Et donc ça a été un choix totalement inconscient. Après, ce qui a été comme choix conscient, c'est le traitement très différent de l'image, de la mise en couleur, de prendre le temps aussi de découper, de choisir que des scènes entre deux, parce que finalement, le livre, au départ, est beaucoup plus complet, et même très complet. On peut faire 25 adaptations BD avec juste un livre comme celui-là. Et donc, effectivement, il a fallu faire beaucoup de choix, et ça a été de plus en plus facile, en fait, parce qu'au début, c'est comme quand on vous laisse dans un magasin de jouets, vous avez envie de tout prendre, et puis finalement, vous dites, je peux pas tout ramener, donc de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, peut-être pas, mais en tout cas, vers où j'ai envie d'aller. Et donc très très au fur et à mesure, c'était parfois un peu douloureux même à la fin de dire ah ça c'est dommage parce que c'était pas mal comme scène, mais on va pas faire un livre de 500 pages, donc on va devoir quand même couper. Et puis ça devenait de plus en plus simple, donc j'ai dit non, ça on garde pas. Quand je dis on, c'est moi, hein, mais moi et ma tête, mais c'est vrai que ça a été des choix, mais ça a été passionnant à faire et ça m'a donné vraiment très envie de continuer à faire des adaptations, parce que je trouve que c'est au contraire un exercice très sportif, en fait, et très intense. Et pas du tout, comme on pourrait le croire, une sorte de facilité de dire « bon, je prends le texte de quelqu'un qui existe déjà, comme ça j'ai pas besoin de trouver une histoire moi-même ». Au contraire, là, c'est remodeler tout, et donc c'est faire un autre meuble, enfin faire une chaise à partir d'une table basse, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on va y arriver, mais il faut quand même... Faut un petit peu d'huile de coude.
Ouais, beaucoup de travail et de talent, ce qui est votre cas dans les deux cas, Louison. Mais lors de votre première entrevue, vous expliquez que Michel Schneider vous a donné un conseil que vous rapportez donc dans cette préface. Il faut que ce soit plus Misfits que ces temps de réflexion, plus crépusculaire que Technicolor. Et de fait, c'est un livre en noir, bleu et blanc, ce qui donne un mélange étrange de chaleur et de froideur. Moi, c'est comme ça que je l'ai en tout cas ressenti. Comment est-ce que vous avez choisi cette gamme chromatique?
Au départ, on était... Alors, l'idée du bleu est arrivée assez vite parce que justement c'est une couleur froide, malgré ce que la BD sortie il y a quelques années racontait. Et donc c'était important que le noir et blanc aurait été vraiment trop austère et puis justement trop film de genre. Enfin c'était et en plus de ça il y avait Hollywood Menteur de Luz qui était un chef-d'œuvre de noir et blanc sur Marilyn Monroe et en tout cas sur le tournage des Misfits. Donc vous voyez pas très bien l'intérêt d'aller marcher dans des empreintes aussi majestueuses. Donc au départ le bleu blanc noir c'était aussi le bleu était plus soutenu au tout départ quand j'ai commencé à travailler, c'était plus celui de la couverture. Et c'était aussi cette gamme que j'aimais bien dans Les Trois Brigands d'Ungerer, où il y a aussi un peu de jaune et de rouge. Mais il y avait cette espèce de côté très graphique qui venait aussi... alors quand c'était vraiment très bleu, j'avais fait des tests où même la peau de Marilyn était bleue. Enfin c'était... j'ai cherché.
Ah oui.
Et donc il y avait quelque chose comme ça de... effectivement froid, parce que le bleu est froid. Et à la fois, le travail de lumière fait que ça réchauffe. Mmh. Et que tout d'un coup, en fait, on sent... d'abord, je mettais mes bleus, et puis après, je venais travailler le blanc. Et tout d'un coup, je sentais les atmosphères se réchauffer. Je voyais je pouvais sentir un peu ce que le soleil pouvait encore faire à peu près sur ces deux-là, de vie et de chaleur. Et il reste encore quelque chose qui pulse, quoi.
Alors, ces deux-là, justement, parce que 200 pages d'une conversation entre deux personnes, c'est évidemment gageur. Alors... Depuis, on l'a vu en thérapie à la télé, on a posé ces mêmes questions à celles et ceux qui l'ont réalisé et joué. Mais il y a des échappées qui ne sont pas si nombreuses que cela dans l'album. Mais l'essentiel des planches joue cet échange-là. Alors, ça passe souvent par les détails des visages, notamment, bien sûr, celui de Marilyn, sur les yeux, bien sûr, mais aussi sur sa bouche. Comment est-ce que vous avez conçu, vous, Louison, l'équilibre général de ces zooms, de ces travelling arrière? Comment est-ce que ces variations internes?
Là aussi, ça a été des choses qui ont été faites de façon très naturelle. Et alors là, pour le coup, ça m'a donné des envies de cinéma, comme certains de mes collègues.
Eh oui.
J'ai compris comment on pouvait passer de la bande dessinée au cinéma, parce que il y a quelque chose de l'ordre de presque du chef d'orchestre. Tout d'un coup, on se dit, ça fait trois pages que je suis un peu près, je vais ressortir un peu de la... Je vais remontrer un peu ce qui se passe de plus loin. Et puis à l'inverse, ça fait un peu longtemps que je suis un peu loin, je vais revenir un petit peu. Et c'est sûr que c'est ce que m'avait dit Sébastien Niedig, mon éditeur. Deux personnages, une pièce ou presque, en tout cas, elle change parfois, mais c'est quand même un face-à-face. sur 200 et quelques pages, va falloir trouver des petites astuces. Et il y a quelques échappées, parce qu'il y a l'hôpital psychiatrique, il y a un moment à New York, il y a des choses comme ça, mais globalement, moi, ça me plaisait d'être dans une contrainte, justement, parce que de cette contrainte, il fallait trouver toutes les petites fissures possibles pour s'engouffrer. Et donc, et je savais aussi, moi, en tant que patiente, à quel point le regard se balade quand on est en séance, en fait. On peut être 150 fois assis sur le même canapé, à regarder le même mur, on verra pas forcément le même détail d'un livre, d'un petit bibelot, ou de choses comme ça. Donc, je savais que j'avais là une sorte de parcours visuel qui pouvait s'adapter au fur et à mesure du texte, de parfois être totalement à contre-pied de ce qui est en train de se dire, pour montrer d'ailleurs tout le... Je sais qu'il y a un moment où il y a cette pendule en forme de chat là, avec les yeux qui bougent, que j'ai d'ailleurs chez moi, et qui en fait permet de faire un ping-pong avec Grinson, enfin montrer un peu le côté gaguesque aussi de ce que peut être ce regard un peu ahuri que Grinson a souvent face à Marilyn. Enfin, voilà, il y avait plein de choses de la contrainte. Moi, c'est quelque chose qui marche bien chez moi. On me dit t'as un crayon, une feuille, 10 minutes, je fais ok. On me dit t'as 3 heures, tous les pastels et ce que tu veux comme papier, je sais pas quoi faire.
Bon, mais vous avez 1 heure et 10 minutes pour votre prochain roman graphique, qui sera donc consacré à Elisabeth II.
Ça me sera mon
une
roman tout
de
court.
Vos êtres héroïnes.
Roman tout court.
Vous allez faire?
Ah ouais.
C'est vrai?
Ouais, je suis en train de l'écrire, je pensais que vous...
Non.
Ah ouais, si, ça sort au printemps.
Faut mais non.
Que je le finisse, c'est un détail.
Ah d'accord, et ben voilà. La prochaine publication de Louison, roman. Et ben je me demandais, c'est encore une très bonne nouvelle pour terminer. Terminer, oui, car c'est l'heure en effet. En rappelant que vous venez donc de publier Marilyn, dernière séance chez Futuropolis, d'après le livre de Michel Schneider. En attendant, Elisabeth II, il a un titre ou...
London Bridge.
Pas mal. Merci Louison d'avoir été soir mon invité.
Merci à vous.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et c'est l'heure d'Affaires critiques avec vous, Lucille Comeau, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez d'un des spectacles qui se joue en ce moment de Thiago Rodriguez. Vous avez choisi Katharina et La beauté de tuer des fascistes.
Oui, c'est un spectacle parmi les nombreux qu'on peut voir en ce moment en France, du metteur en scène et désormais directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, qui date déjà de quelques années, mais dont les représentations ont été interrompues avec le Covid. Il arrive en France précédé d'une rumeur un peu excitante. Il aurait été interdit dans certains théâtres, dans les salles il est même parfois hué, des spectateurs quitteraient la salle, d'autres même tenteraient de s'en prendre aux comédiens sur la scène. Bref, tout ça était alléchant. J'y allais la fleur au fusil, comme on dit. Eh bien, j'ai été affligée. Je sais, j'exagère beaucoup, mais vraiment, cette fois-ci, j'étais très fâchée. Pas fâchée pour les bonnes raisons, hein. Pas fâchée parce qu'enfin, un spectacle me choquait, me donnait à penser, me bousculait, non. Fâchée parce que c'était tant mieux, vain et profondément révélateur une nouvelle fois, et quelle fois spectaculaire, qu'il serait temps que le théâtre public arrête de se prendre pour le héros de la bonne conduite politique, surtout quand c'est mal fait. Alors c'est quoi ? Le texte écrit par Thiago Rodriguez lui-même raconte l'histoire d'une famille portugaise qui depuis plusieurs générations tue des fascistes dans l'intimité stricte de leur communauté, une communauté matriarcale où tout le monde se nomme Katharina pour honorer la première victime de la violence policière et patriarcale. Un jour, la plus jeune amène son premier fasciste, un député en cravate qu'on devine issu d'un parti d'extrême droite. Le rituel est mis en place, mais au moment d'appuyer sur la détente, elle recule. S'ensuivent de longs débats sur l'opportunité de la violence, la nécessité de se défendre, celle de remettre en question ou pas ses valeurs familiales, le long de 2h30 très longues qui ressemblent peu ou prou à une leçon de philo rabâchée à base de « Doit-on tolérer l'intolérable ?»
Bon, ça c'est pour le texte, Lucille, qui vous énerve déjà, mais que se passe-t-il sur la scène ?
Ça commençait pourtant plutôt bien. La scène est belle, avec sa petite cabane en bois amovible creusée au centre d'un chêne liège, et puis ses longues robes à volants sombres portées par toute la famille. Les comédiens sont bons, même héroïques vu le simplisme de leur posture. La lumière particulièrement réussie. Pendant 5-10 minutes, j'ai songé à Mérimée, à ses Vendetta Corse, j'ai pensé aussi à Tchekhov, à une espèce de Cerisée nouvelle, et j'étais plutôt conquise. Le problème, on s'en rend compte très vite, c'est que cette scénographie ne sert pas à grand chose, en tout cas pas à rendre vivant un texte sage, atone, inefficace. Tout ça est une forme prétexte, un bel écrin pour une série de discours dont la finalité est didactique avant tout. On assiste donc à une série de dialogues théorisants et bavards que l'absence de forme vide totalement, quand le spectacle pense certainement les armées, la violence, la famille, le fascisme, le patriarcat, la tolérance, etc. Ça ronronne quand ça voudrait mordre, jusqu'à ce qu'en effet ça s'excite un peu. À la fin, quand le député condamné jusque-là muet prend longuement la parole en avant-scène, tribun défendant une doctrine raciste, antiféministe, ultra-conservatrice, désormais bien connue et institutionnalisée. On se demande bien d'ailleurs pourquoi ça s'excite dans le public. Est-ce que les gens ont besoin de se retrouver sur les bancs des Bouffes du Nord un soir de 2022 pour se rendre compte que le fascisme porte cravate et siège dans les assemblées européennes ? La réaction de certains spectateurs est malaisante et c'est la faute du spectacle qui n'incite pas à la révolte mais dans le fond à une colère impuissante et déconnectée. Le spectacle n'est pas subversif pour un sou qui opère lâchement en permanence de légers décalages ou dans le passé avec cette imagerie des costumes méditerranéens traditionnels et cette histoire ancestrale ou dans le futur puisqu'un détour du texte ne manque pas de situer l'action des années après la pandémie. Bien pratique, hein, la fable ou la dystopie pour penser le réel en surplomb. Tout est référencé de côté, pas franc et mou, comme cette mention permanente de Brecht, tirée artificiellement pour rattacher le spectacle à une tradition politique totalement dévitalisée, un accessoire. Résultat, encore un spectacle qui abdique complètement la fiction, qui abdique le théâtre, le divertissement au bon sens du terme, et qui abdique dans le même mouvement toute pensée efficace pour nous avertir depuis on ne sait quelle position de sachant que quoi. Qu'il faut faire attention, qu'il faut voter mieux, qu'on va tous crever, on ne sait même plus.
Bon, il vous a fâché, Lucille. Katharina et la beauté de tuer des fascistes. C'est jusqu'à fin octobre, au Bouffes du Nord à Paris. Puis le spectacle va circuler jusqu'à la fin de l'année à Cavaillon, Arles, Vendôme-les-Nancy, Marseille, d'autres dates. Encore toutes à retrouver sur notre site. Va-t-on retrouver un peu de sérénité avec vous, Marie Sorbier, cette affaire en cours. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
L'art de la marionnette, qui vient donc enfin de recevoir une reconnaissance officielle.
Oui Arnaud, la ministre de la Culture l'a annoncé il y a quelques jours, 6 lieux français sont désormais labellisés Centres nationaux de la marionnette. Ce nouveau label, je cite, « reconnaît l'importance de cet art populaire et son rôle dans le renouvellement des esthétiques des arts de la scène ». Je suis allée demander à Mathieu Dochterman les enjeux de cette nouvelle reconnaissance. Mathieu Dochterman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes critique, vous suivez notamment beaucoup les créations et les parcours d'artistes liés à la marionnette. Pourquoi cette labellisation est importante selon vous ?
Oui, j'ai été aussi au conseil d'administration de TEMA, qui est l'Association nationale des théâtres de marionnettes. C'est important, je pense, avant toute chose, pour des raisons symboliques. C'est-à-dire que c'est important pour aider la marionnette à sortir d'un préjugé dont elle souffre encore, qui est d'être un art mineur, qui serait plutôt destiné à un jeune public, alors que la création contemporaine est très majoritairement destinée à un public d'adultes. C'est important de manière symbolique dans les rapports institutionnels, dans la manière dont ces lieux en particulier, mais tout le secteur marionnette en règle générale, va pouvoir discuter d'égal à égal avec d'autres lieux labellisés, que ce soit des scènes nationales, des CDN, etc., etc. Et donc c'est important dans la reconnaissance du sérieux et de la maturité de cet art en lui-même.
Alors quelles seront les missions de ces centres nationaux de la marionnette ? À quoi ce label engage ?
Alors, ce label, qui est donc décerné par le ministère de la Culture, hein, normalement, le ministère nous explique que c'est quelque chose qui est attribué pour reconnaître la qualité du travail d'un lieu et d'une équipe, eh bien, ça engage à continuer, en fait, l'équipe à faire ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire à consacrer une partie importante à la fois de sa diffusion, mais aussi de ses capacités de création en tant que fabrique à la marionnette, justement, avec un certain nombre de choses dans le cahier des charges, c'est-à-dire dans les choses minimales que doit faire un lieu pour recevoir le label, notamment le fait d'avoir un atelier à disposition pour permettre aux artistes de créer les marionnettes et les objets directement à côté, à proximité du plateau, de manière à ce que les allers-retours au moment de la création soient simplifiés pour l'équipe artistique. Et donc ça, c'est une chose qui est effectivement très importante pour les marionnettistes, évidemment.
Et à l'inverse, l'État, lui, s'engage à quoi en donnant le label ? Est-ce que c'est uniquement financier ?
Alors, ça n'est pas tout à fait que financier, c'est en partie financier, parce qu'il y a effectivement un plancher de budget, mais qui pour l'instant est atteint par toutes les structures qui ont été labellisées, donc ça n'augure pas nécessairement mécaniquement d'une augmentation immédiate des budgets, même si c'est une revendication évidemment de ces lieux et du secteur marionnette d'avoir les moyens de continuer à créer dans de bonnes conditions. C'est aussi quelque chose qui, cette attribution du label, quelque chose qui permet une entrée dans certains circuits et certains endroits de représentativité qui n'étaient pas accessibles jusque-là aux lieux marionnettes.
Les 6 premiers lieux labellisés, alors je vais vous les citer, sont l'espace Géliot à Oloron-Sainte-Marie, l'Hectare à Vendôme, le Mouffetard à Paris, le théâtre à la Coque à Hennebon, le théâtre de Laval à Laval et le Sablier à Dives-sur-Mer. Est-ce que, comme les 12 autres labels nationaux, d'autres lieux peuvent prétendre à cette labellisation? Est-ce qu'il y a de la part de l'État une volonté d'expansion du réseau?
Alors c'est tout à fait l'un des dossiers chauds et des questions importantes pour le secteur marionnette. Il y a deux questions en fait, au-delà des sous. Il y a cette question effectivement de la multiplication des lieux, parce qu'au moment où les deux associations représentatives du secteur marionnette ont discuté la création de ce label, le chiffre qui était sur la table était de 12 lieux, donc on ne serait qu'à la moitié, avec une grande vigilance de la part de ces associations pour regarder l'équité territoriale, c'est-à-dire la distribution des lieux sur le territoire. Pour l'instant, les 6 labels ont été distribués plutôt dans l'ouest et dans le nord du pays, donc dans l'est et dans le sud-est. La question se pose de savoir comment les marionnettistes peuvent travailler sans avoir cette ressource-là. Donc l'équité territoriale est quelque chose de très important, la multiplication des lieux. Et puis, au-delà de ça, la bonne santé et les moyens qui sont mis sur le reste du réseau, parce que, bien entendu, les centres nationaux de la marionnette ne sont pas les seuls lieux marionnettes. Il y a aussi des lieux notamment montés par des artistes qui ont un accompagnement complémentaire au Centre national de la marionnette et qui ne doivent surtout pas disparaître. Et donc il y a aussi dans la discussion politique autour de la table, il y a cette question de ne pas couper les moyens de ces autres lieux pour les reporter sur les centres nationaux. Donc évidemment il faut plus d'argent pour les centres nationaux, mais il faut que ça se fasse à budget croissant et non pas budget constant. Parce que si c'est un budget constant, on déshabille Paul pour habiller Pierre.
Les marionnettes, la marionnette souffre encore souvent de préjugés, alors parfois datés. Certains imaginent qu'elle ne concerne que les enfants, par exemple. C'est une remarque qu'on entend souvent concernant les spectacles de marionnettes, alors que artistiquement, c'est un secteur très fécond. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de lieux qui accueillent de la marionnette. Il y a des festivals aussi, beaucoup en France et à l'international. Est-ce que cette reconnaissance d'État va permettre aussi une meilleure appréciation de cet art, j'allais dire, au niveau du grand public?
Alors c'est ce qu'espère le secteur, et j'ai discuté avec des directrices de centres nationaux de la marionnette qui me disent que dès à présent les rapports avec les autres opérateurs culturels sur leur territoire ont déjà changé et qu'il y a des discussions qui s'organisent autour d'organiser des tournées, de partager effectivement des choses. Donc peut-être que effectivement ça va favoriser l'accès à d'autres scènes qui ne sont pas à proprement parler des scènes du réseau marionnette. Et effectivement quant à cette image d'Épinal de la marionnette, le guignol ou la vieille marionnette à fil qui serait réservée aux enfants, il est sûr et certain que les marionnettistes ont largement prouvé la qualité des propositions qu'ils portent, et puis la programmation assez régulière de marionnettistes dans le Inn d'Avignon en soi-même est quand même le signe de la qualité artistique de ce qui est proposé. Et donc il faut espérer effectivement que cette attribution des labels va permettre une diffusion plus large et de conquérir un public plus large pour la marionnette.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque lundi, à présent, des nouvelles culturelles de l'étranger grâce aux correspondants de France Culture. Ce soir, direction l'Espagne, où se trouve Mathieu de Taillac. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
2023 sera encore une forte année Picasso, chez vous en Espagne, mais aussi chez nous en France. Nous allons prendre un peu d'avance avec vous, comme d'ailleurs l'ont fait plusieurs musées, en programmant déjà les premières expositions. C'est en effet une grande célébration du 50e anniversaire de la mort du génie de Malaga, qui se déroule sous l'auspice des ministères de la Culture des deux pays, avec une cinquantaine d'institutions qui ont répondu présent, pas des moindres, Pompidou, Reina Sofia, Prado, Thyssen, Picasso Paris, pour ne citer que les plus grandes institutions. Mais la question, Mathieu, c'est tout de même de savoir ce que l'on peut bien encore présenter et raconter, surtout sur Picasso, qu'on le connaisse déjà?
Alors c'est une excellente question, tellement bonne que pour nous répondre, je vous propose d'écouter Rocío García. Il s'agit de la directrice de projet de l'année Picasso en Espagne. Elle souligne au moins deux éléments à observer, les incursions du grand maître en dehors de la peinture et les dialogues avec d'autres artistes.
Ces face-à-face, évidemment avec Julio González, mais aussi avec Miró, que l'on pourra voir fin 2023 à Barcelone, ou encore avec les grands maîtres comme Le Greco, mais aussi Velázquez, à l'exposition de la Casa Velázquez de Madrid. C'est un aller-retour. Voir Le Greco à travers Picasso, voir Goya à travers Picasso avec l'exposition en France. Picasso, en plus d'être immensément prolifique, était immensément curieux. Il s'est ouvert à la sculpture, mais aussi à la céramique. Il s'est même aventuré à l'écriture. Et ses poèmes, qui vont être édités en français et en espagnol, ainsi que ses pièces de théâtre, vont faire partie de cet aspect moins connu de Picasso.
Oui, mais Mathieu, pour être tout à fait honnête, Miró, Le Greco, Velázquez, Goya, bon, beaucoup le connaissent déjà, mais il y a un autre nom évoqué à l'instant par votre interlocutrice qui peut-être n'est pas connu de tous nos auditeurs, c'est celui de Julio González, c'est un sculpteur, et vous avez vu précisément l'exposition consacrée à sa collaboration avec Picasso.
Oui, parce qu'en jouant un peu sur les dates, l'exposition de la Fondation Mapfre a ouvert en octobre, mais on pourra encore la voir jusqu'à janvier 2023. On écoute Nadia Arroyo, la directrice culturelle de la Fondation Mapfre, nous parler du travail conjoint à Paris de Picasso et de González pendant les 4 ans qu'ont duré leur relation artistique et de ce qu'ils ont apporté ensemble à l'histoire de l'art.
Cette collaboration entre les deux artistes espagnols ont réussi à faire un saut dans l'évolution, dans la création de cette sculpture moderne. Donc ici, on parle de l'évolution d'un événement essentiel dans l'histoire de l'art du XXe siècle, mais aussi on parle du travail de deux grands artistes espagnols qui ont poussé et cassé les frontières de l'art. On voit très clairement, c'est vrai qu'on a Femme au jardin, mais aussi on a Femme c'est quoi fin de González, où on voit absolument cette dématérialisation de la sculpture, où le vide fait partie, comme un élément, de la sculpture, et qui va être clé pour le futur de la sculpture moderne du seconde moitié du XXe siècle.
Femme au jardin, femme se coiffant, voilà deux chefs-d'œuvre prêtés. Le premier par le musée Picasso de Paris, le second par Beaubourg. Ça donne une idée de la qualité des œuvres exposées.
Vous avez aiguisé notre appétit, Mathieu. Alors, il faut nous en dire un peu plus sur Julio González. Est-ce qu'il a été influencé par Picasso? Est-ce qu'au contraire, Picasso s'est nourri de ses apports?
Alors non, selon les responsables de cette exposition, il n'y a pas vraiment d'influence d'un artiste sur l'autre. Il y a plutôt une relation de collaboration. Et quand elle prend fin, chacun reprend son chemin personnel. En ce qui concerne González, il affirme son propre style. Nadia Arroyo.
Les idées de valoriser l'art de techniques plus d'artisans et des coupures de cette frontière entre beaux-arts et art décoratif qui, au long des années, a été vraiment est strict. Et aussi, c'est vrai que je crois qu'il y a eu un moment où il prend la force de développer sa propre langage avec ce qu'il maîtrise et d'aller jusqu'au bout de cette évolution de la dématérialisation qu'on voit tellement clairement dans ses chefs d'œuvre. On assume sa force et son œuvre, son propre langage.
Affirmation réussie dans nos deux pays d'ailleurs. Avant ce dialogue à la Fondation Mapfre, Julio González a eu droit à une exposition au Centre Pompidou et à une autre au Reina Sofía.
Bon, mais revenons à Picasso. Vous nous avez parlé de l'artiste. On constate avec vous qu'il y a encore des choses à dire et à apprendre sur son œuvre. Mais parlons un peu de l'homme. Picasso n'a pas été aussi exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans sa vie privée, qu'il a été génial. C'est vrai aussi dans sa vie d'artiste. Est-ce qu'en 2022, on peut égratigner un peu la biographie d'un monstre sacré de cette catégorie? Est-ce qu'on peut être un peu critique?
Alors il y a au moins un aspect sur lequel on a vu ces dernières années une évolution des regards posés sur Picasso, c'est celui de ses rapports aux femmes. Après MeToo et dans une Espagne où le féminisme est un mouvement de fond qui fait bouger les politiques et qui fait sortir des centaines de milliers de personnes chaque 8 mars, des activistes reviennent sur ses relations que l'on dirait aujourd'hui toxiques avec ses compagnes, ses muses, avec les femmes de sa vie. Le journal El País a consacré une pleine page à ce sujet. J'ai posé la question à Rocío García.
Esto va a estar evidentemente en los coloquios, pasa por los dos grandes congresos, ¿no?
Ça sera présent dans les colloques, dans les deux grands congrès, celui du Reina Sofía à Madrid fin 2022 et celui au siège de l'UNESCO à Paris fin 2023. Ces sujets seront abordés. On en a déjà parlé spécifiquement lors d'une exposition à Brooklyn. Mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas que Picasso soit machiste, mais que l'époque était machiste. Il est né en 1881, c'est un homme du 19e siècle. C'est important de replacer les choses dans un contexte où les relations entre les hommes et les femmes avaient un côté rude, qui, heureusement, n'est plus le même aujourd'hui.
Un regard critique mais contextualisé donc. Les hommes du 19e et du début du 20e siècle étaient machistes parce que la société l'était davantage. C'est sans doute vrai, mais c'est vrai aussi que certains l'étaient plus que d'autres.
Eh bien, le public jugera de l'œuvre, de l'homme et de la façon dont le représenter 50 ans après sa mort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les occasions de revisiter Picasso ne vont pas manquer au cours des 12 prochains mois. Merci Mathieu de Taillac. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster via le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.